Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter ?
Un peu de ZAD. Un peu de grève. Du gaz de schiste. Du logement. Du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un beau sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en grève
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, il est 19h05 sur les ondes rebelles de Radio Canu, c'est le Canu Info de ce vendredi 10 novembre, veille de jour férié. De quoi allons-nous parler ce soir ?
Alors au niveau local, on va parler de l'occupation du CCVA par le collectif Femmes à la rue.
Et puis on vous diffusera un petit reportage, vous avez dû le voir, il y a eu malheureusement la confirmation de la dissolution de la GAL hier.
Et puis ensuite on vous parlera du Sénat qui a voté la fin de l'aide médicale
d'État,
et c'est dégueulasse.
Et puis on ira un peu dans le Puy-de-Dôme où un article signifiait quand même qu'il y avait au moins 200 élèves handicapés sans auxiliaire de vie scolaire pour la rentrée.
Et puis dans le chapitre des dissolutions, il y avait aussi hier, du coup, en même temps que la question de la GAL, la question de l'annulation ou pas de la dissolution des soulèvements de la Terre, on se demandera ce que l'infirmation de la dissolution veut dire.
Et puis on vous parlera de la manif contre l'antisémitisme qui aura lieu dimanche avec des promoteurs, bizarrement, d'idées ou de penseurs antisémites.
Et puis une petite touche légère, tout autant que absurde, un petit caprice esthétique de Pierre Moscovici qui a coûté quand même quelques milliers d'euros.
Et évidemment, comme toutes les semaines, il y aura l'agenda. Et n'hésitez pas à nous appeler pour nous proposer vos ACAP comme chaque semaine. C'est le 04 78 39 18 15. Bonne écoute.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon
difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons...
Je ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici...
Et vous, il s'agit de la faire mesure de ces en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes, en chantant résiste.
Et pour commencer, bah, on va brièvement vous parler, puisque c'était hier, voilà, je suis perdu dans les jours, mais si, c'était hier, l'occupation du CCVA, je ne me rappelle même plus ce que c'est, le CCVA, où c'est le grand centre qui est à Villeurbanne, là, vers République, en face du gymnase, bref, peu importe, qui a été occupé par le collectif Solidarité avec les femmes à la rue, qui avait déjà mené l'occupation du gymnase Bellecombe en fin d'année dernière. On se rappelle que avec l'arrivée de septembre et le fait que les gamins du 6e avaient très très besoin de faire du sport, il y avait un hébergement qui avait pu être trouvé par ces personnes. Du coup, c'était plutôt malin parce que, évidemment, l'occupation du CCVA, déjà, ça fait chier la mairie. Mais par ailleurs, c'est surtout que ce soir-là, il y avait dans le cadre, on l'évoquait la semaine dernière, de la grande semaine, c'est moi qui rajoute grande, allez, soyons honnêtes, de la biennale, la semaine de la biennale de l'hospitalité, je ne sais même pas comment on dit, parce qu'on s'en fout un peu de ce truc, il y avait une super conférence qui venait parler de comment les collectivités territoriales peuvent lutter contre le sans-abrisme, discuter avec les personnes qui vivent en squat. Alors les gens en squat, ils n'ont rien à foutre que vous discutiez avec eux, ils veulent des logements. Hein. Parler avec Doucet, ça n'intéresse personne. Voilà. Et du coup, alors bah évidemment, dans le cadre de cette biennale de l'hospitalité, les personnes se sont fait têche, elles ont pu dormir une nuit au CCVA et se sont fait têche par les DEC. On va quand même rester un peu terre à terre sur les choses qui sont passées. Mais on pourra quand même se féliciter de l'annulation de cette fameuse conférence d'une hypocrisie. Du coup, c'est vrai qu'il aurait été encore plus difficile de discuter de comment est-ce qu'on accueille bien les personnes et on leur trouve des logements, tout en ayant la police qui évacue des gens qui ne demandent qu'à dormir sur place.
Magnifique. Et tout de suite, on part place des terreaux hier soir.
Mais place des terreaux à Lyon, et on s'est réunis spontanément avec le groupe antifasciste Lyon Environ par rapport à la dissolution qui est tombée cet après-midi sur le groupe antifasciste Lyon Environ et sur le CRI aussi, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. La GAL, c'est le groupe antifasciste Lyon Environ. On est à tendance antifasciste, autonome et révolutionnaire. On existe depuis 10 ans sur Lyon, depuis 2013 on s'est formé. Et on est très actifs sur Lyon pour tout ce qui est vigilance contre l'extrême droite, mais aussi sur plein d'autres luttes, les luttes pour les squats et le mal logement. On est sur les luttes pour la Palestine en ce moment. On a été sur les luttes contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, les droits pour les LGBTQ. On est sur diverses luttes contre toutes les oppressions qu'on subit au quotidien. On ne fait pas que combattre l'extrême droite ou courir après l'extrême droite dans les rues. On fait beaucoup de combats et on a accentué ces dernières années quand même notre combat sur, contre les violences policières. Et c'est depuis qu'on a accentué notre combat sur les violences policières, contre les violences policières, qu'on a subi de plus en plus de répression. Et on pense que notre dissolution, elle est issue de ça, des syndicats policiers qui ont poussé Darmanin à agir sur nous, par rapport à ça, quoi.
Le Conseil d'État a décidé de dissoudre le groupe antifasciste Lyon Environ, ainsi que la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Je vais donc prendre la parole et je vais lire le communiqué que la GAL a écrit suite à ça. Après une première victoire en haut cours face à la demande de dissolution du groupe la GAL, le ministère de l'Intérieur a persévéré dans son acharnement contre celles et ceux qui luttent contre la fascisation de notre société. Dans sa chasse aux ennemis intérieurs, l'État a déjà dissous des associations luttant contre l'islamophobie en défendant la cause palestinienne, notamment grâce à la loi séparatisme. C'est maintenant autour d'un groupe probablement représentatif pour eux du mouvement autonome d'être attaqué. Ils se méprennent. Ce n'est pas parce qu'ils dissolvent nos structures que nous cesserons de lutter. Les mouvements de contestation continueront à fleurir partout et sans arrêt. Ce contexte de répression étatique est un principe de la fascisation de l'État, comme le passé a pu en connaître. Et si la forme a évolué, le fond persiste. Que ce soit face à s'organiser et de faire front. Nous voulions rappeler ici la chronologie des événements. Le 17 mars 2022, une notification de dissolution était remise à des membres supposés de la GAL, suite deux jours de véritable harcèlement policier. Le 1er avril 2022, la notification définitive de dissolution était adressée à un membre supposé du groupe. Elle aura notamment eu pour conséquence la restriction des libertés individuelles des membres supposés de la GAL, dont l'interdiction d'apparaître dans des manifestations ou des événements politiques et l'interdiction totale d'utiliser les réseaux sociaux du groupe ou tout matériel militant. Face à cet acharnement forcené du ministère de l'Intérieur, nous avions alors décidé de commencer un bras de fer judiciaire.
Enfin, nous, quand on a vu que les soulèvements de la Terre étaient le même jour que nous, on s'est dit que nous, on allait sauter, on était le fusible, et eux, ils allaient rester. Après, ils ne sont pas dissous, mais ils ont une énorme épée de Damoclès sur la tête. En gros, ils les ont prévenus, et c'est pas cool non plus pour les soulèvements. Après, s'ils les déçoivent pas, c'est que c'est quand même plus dur. Il y a quand même plusieurs organismes qui sont dans les soulèvements de la Terre. C'est pas un petit groupe comme le nôtre. C'est difficile. T'as des partis politiques, t'as des associations, t'as des groupes non déclarés. C'est quand même plus difficile de dissoudre ça et plus complexe, je pense, que le nôtre, où ils ont désigné un leader. On est un petit groupe de Lyon et ils pensent que ça a passé un peu plus à travers, quoi. Le Conseil d'État nous avait donné raison il y a 18 mois, en fait. Et clairement, il avait dit que la tentative de dissolution était illégale et manifestement illégale. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les 18 mois pour qu'ils retournent leur veste comme ça. Donc, sur nos soi-disant provocations et appels à la violence, qui restent très très flous, comment dire, c'est parce qu'on a des réseaux sociaux qui sont suivis, c'est parce qu'on a une façon de parler ou de faire une critique de l'État policier et même de l'extrême droite. Et notre façon de critiquer, notre façon d'écrire inciterait à la violence des gens, alors que le Conseil d'État, enfin même Darmanin, n'a pas réussi à prouver ça, en fait. Clairement, il n'y a aucune preuve que ce qu'on dit entraîne des violences derrière. Et voire même, ils n'ont aucun écrit à nous qui appelle directement à de la violence pure, etc. Donc, ils nous dissolvent sur des trucs infondés, quoi. Enfin, on est surpris, pas surpris, mais on est très déçus, quoi, en tout cas.
J'aime mon pays, comment peux-tu en douter ? J'aime aussi le Seigneur, car il pardonnera mes péchés.
Avec l'aide de nos avocates, nous avons déposé un référé liberté au Conseil d'État, accompagné d'un dossier visant à démonter pas à pas l'argumentaire complètement lunaire, approximatif et bâclé utilisé par le ministère pour nous incriminer. L'audience au Conseil a eu lieu le 11 mai 2022 et deux heures de débat se sont engagées pour tenter de nous défendre. Le 16 mai, la décision tombe, le Conseil d'État décide de suspendre la décision du Conseil des ministres de dissoudre notre groupe, stipulant qu'il s'agissait d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion et d'association. C'était une victoire pour nous, mais aussi plus largement pour notre camp politique, après la suspension de dissolution des groupes Palestine Vaincra et Comité Action Palestine. Nous savions bien sûr que nous n'avions là gagné qu'une bataille, que cette dissolution n'avait rien de définitif, puisqu'elle ne faisait que suspendre la dissolution du groupe antifasciste Lyon et Environ jusqu'au débat final qui a eu lieu le 27 octobre 2023. Le 19 octobre dernier, nos avocates ont été informées de l'audience sur le fond du recours contre notre dissolution, ainsi que celle des soulèvements de la Terre et du CRI, aurait lieu une semaine après. Nous n'avons donc eu qu'une semaine pour se préparer une audience censée protéger nos libertés fondamentales. Le jour J, avant que notre avocat au Conseil ne puisse prendre la parole, le rapporteur public, anciennement nommé commissaire du gouvernement, qui portait alors si bien son nom, demandait au juge du Conseil d'État de bien vouloir maintenir notre dissolution, quand bien même elle aurait été jugée illégale précédemment. L'audience aura été rapide, en tout 2h30 pour discuter de 4 groupes différents. Aujourd'hui, le Conseil d'État décide de revenir sur les précédentes décisions et choisit de dissoudre la GAL ainsi que le CRI. Les soulèvements de la Terre font quant à eux l'objet d'un avertissement sans frais, une une promesse d'avenir pour le ministère de l'Intérieur et Darmanin.
Alors en fait, la première fois, quand il y a eu la demande de dissolution, on a obtenu très vite la suspension en référé liberté. Donc ça nous a permis de continuer à militer comme on le faisait avant. Là, le problème, on n'a plus de recours juridique à part la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, en ce moment, en gros, demain, notre groupe sera illégal, en fait. Enfin, on est illégal à partir de maintenant, quoi. Et si on continue à militer comme on fait, on risque d'être condamné pour reconstitution de ligue dissoute. Donc encore de la répression, encore des peines qui peuvent arriver, encore voilà. Donc ça entraîne que notre groupe, au lieu de se focaliser sur des luttes actuelles, sur la lutte pour le peuple palestinien par exemple, sur la lutte contre l'extrême droite à Lyon, sur plein d'autres choses, là on va être concentré à comment on peut continuer à militer sans avoir trop de répression. Et c'est dommage parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire en ce moment. Et du coup sur ce travail-là, on sera peut-être moins productif, moins actif, et c'est dommage pour plein de choses. Comme on disait, on compte pas s'arrêter, on peut pas s'arrêter. Ce serait un aveu d'avoir perdu, etc. Nous, on considère en plus que ce décret est illégitime et illégal pour nous. Donc, on va pas s'arrêter. On va juste revoir notre stratégie. On est en train de voir avec nos avocats. On a plusieurs avocats sur le coup. En tout cas, c'est bien parti pour qu'on ait la Cour européenne des droits de l'homme. Au niveau juridique, ce sera ce combat-là. Si on trouve pas d'autres accès juridiques avant. Et au niveau militantisme, on a un groupe, on n'est pas une association, on n'est pas un groupe avec des adhérents. Chacun et chacune va continuer à militer pour la lutte antifasciste, contre les violences policières, et on le fera savoir d'une manière ou d'une autre.
L'antifascisme n'est pas un crime. Nos luttes sont légitimes. L'antifascisme n'est pas un crime. Nos luttes sont légitimes. L'antifascisme n'est pas un crime, nos luttes sont légitimes.
Nous en concluons que nous n'avons pas d'autre choix que de nous référer au juge européen pour rappeler au Conseil d'État ce qu'est la liberté fondamentale. Aujourd'hui, le Conseil d'État a même oublié d'en parler, alors même qu'il y a 18 mois, il suspendait la dissolution au nom des libertés d'association et de réunion, d'expression et d'opinion. Mais nous sommes toutes et toutes militantes et militantes de terrain. Et nous ne cesserons pas de combattre face à un gouvernement se complaisant dans les dérives liberticides et autoritaires. Dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement, où le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie augmentent partout, où les acquis sociaux sont méticuleusement démontés, où la police se retrouve légitimée dans ses exactions et ses crimes racistes, où se perpétue la traque inhumaine des migrants et migrantes aux frontières de l'Europe. Alors il est même un devoir de continuer la lutte, et ce n'est certainement pas un décret qui nous arrêtera. De plus, si notre minuscule mouvement antifasciste autonome local se retrouve visé par le ministre de l'Intérieur, c'est que nous avons, jusque-là, visé plutôt juste. Notre combat contre l'autoritarisme, le capitalisme mortifère, l'extrême droite, ses idées, ses États et ses bandes armées va se poursuivre. Peut-être ne fait-il d'ailleurs que commencer. Ceci est un appel à un soutien d'ampleur de la part de toutes et tous nos alliés, les forces progressistes dans leur ensemble. Face au basculement répressif, faire bloc est notre seule issue. On ne dissout pas une révolte qui gronde, tout comme on ne dissout pas un soulèvement. À jamais antifasciste.
Fest le jeudi 30 novembre à La Rayonne avec un concert avec Medine, Demi Portion, Sidi Wacho et KLM, et ça sera suivi d'un week-end antifasciste avec pas mal de conférences qui devaient être organisées par nous pour les 10 ans de notre groupe. Finalement, tous les potes qui nous soutiennent, donc le Lyon Antifa Fest, les bars, etc., reprennent ça, et il y aura des conférences donc le vendredi 1er, le samedi 2, le dimanche 3 et le lundi 4 sur différentes thématiques qui peuvent être retrouvées sur rebellion.info. ou sur nos réseaux sociaux qui sont encore ouverts.
Des réseaux sociaux qui sont encore ouverts, enfin qui étaient encore ouverts jusqu'il y a peu, puisque donc la dissolution est valable depuis aujourd'hui. On remercie pour ces enregistrements qui nous ont permis de vous faire vivre un petit peu le rassemblement d'hier. On remercie les camarades de Radio Canut, notamment des émissions Mayday et Micro-Sieste, qui nous ont passé leur son.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Et ouais, on va continuer avec des mauvaises nouvelles et encore des... Le Sénat qui s'illustre. Alors bon, le Sénat, c'est un peu ce qu'il y a de plus à droite en France comme institution, en tout cas quand on voit la composition. C'est surtout des vieux hommes blancs bien racistes qui trouvent que faire de la démagogie et dire de la merde, c'est super. Donc là, leur dernière lubie, c'est qu'ils ont voté. Donc vous savez, il y a des grosses négociations entre la droite de la droite, donc Darmanin, quoi, enfin l'extrême droite et les LR, enfin... En fait, tous des gens qui sont d'accord, mais qui font quand même des négociations. Mais en fait, ils sont d'accord pour dire qu'eux, ils veulent que la France soit forcée à toutes ces merdes. Voilà, plus de migrants. Et surtout, ils sont hyper d'accord pour dire qu'il y a une théorie. Leur grande théorie, c'est l'appel d'air. Ça veut dire que les gens, il y a plein de gens qui viennent, par exemple, d'Afrique. C'est relativement loin quand on vient à Pince, entre autres. Et qui font tout ce trajet comme ça, qui payent des passeurs, qui se font torturer en Libye, etc. pour venir se faire soigner une chico un peu malade. Gratos en France, ça c'est exactement leur délire. Alors vous êtes des gros cons et en fait vous allez dans des cliniques privées payer la peau du cul pour vous faire soigner les chicots, c'est votre problème, on en a rien à pétaf. Par contre n'allez pas raconter qu'il y a des gens qui traversent la moitié d'un continent et qui mettent leur vie en danger. On sait que la Méditerranée de plus en plus c'est un cimetière et plus une mer pour venir se faire soigner une chicot. Voilà. Une fois que les choses sont posées, on peut commencer donc à dire qu'ils ont supprimé l'AME. L'AME, c'est quoi ? C'est l'aide médicale de l'État. En gros, c'est la couverture sociale pour les soins qui est accordée aux personnes étrangères en France. Donc, l'AME, il y a eu vachement de fantasmes. Vous savez, c'est cette histoire de femmes qui se faisaient refaire les seins aux frais de l'AME, etc. On va le dire tout de suite, quand on a l'AME, on a 100% du remboursement sécu sur un certain nombre de soins, mais pas tous. Donc, en gros, il faut que ce soit extrêmement grave, que ça mette en danger la santé publique, parce que ça, pour se protéger soi-même, on est encore un tout petit peu capable de payer, quoique de moins en moins. Mais ce fantasme que c'est comme ça une couverture santé, et c'est la meilleure des mutuelles et que personne ne paye rien, ça n'est pas vrai. Par ailleurs, on rappellera aussi que pour avoir l'AME, vous savez, vous faites les trois quarts de vos démarches par internet, en vrai on n'est pas pour que ce soit obligé de faire comme ça, mais quand même des fois c'est pratique de pas bouger son cul et de faire ses petites démarches sur internet. Pour avoir l'AME, il faut se déplacer pour aller la demander à la CPAM, vous savez le truc qui est jamais ouvert où il y a toujours trop de monde et en fait selon où on est, en fait il y en a juste plus parce que le service public ça n'existe plus, pour aller la demander. Et puis il faut encore se redéplacer pour y aller, entre temps il faut avoir une adresse pour recevoir le courrier qui vous dit que vous l'aviez, etc, etc. Bref, l'AME, en fait il y a la moitié des gens qui ont droit qui la demandent pas. Donc on est quand même sur des volumes assez restreints pour vous donner une idée en termes de... Alors là, ils ont budgétisé ça, c'est une stratégie de la droite, ils la surbudgétisent, par exemple là c'est 1,2 milliard je crois, et l'an dernier c'était budgétisé à 1,1 milliard, et en fait il n'y a que 800 ou 900 millions qui ont été utilisés, donc c'est un des rares trucs où ils débloquent un budget, mais en faisant en sorte qu'on le dépense pas, mais comme ça, ça permet de faire des grandes annonces, vous savez comme ils aiment faire à la téloche, rendez-vous compte, ces étrangers nous coûtent 1 milliard. Rapporté au volume de ce que c'est la sécurité sociale, on est sur 0,5%. Ouais, donc rien. Enfin, voilà, soyons clairs sur ce truc-là. En fait, il y a un truc aussi qui est à la fois vrai et à la fois, peut-être c'est énervant aussi. En tout cas, moi, peut-être des fois, ça m'énerve. On peut discuter santé publique et en fait la suppression de l'AME est évidemment une énorme bullshit d'un point de vue santé publique. On peut parler économie et dire que soigner les gens le plus tard possible, parce qu'en vrai ils vont pas supprimer complètement l'accès aux soins, et ils sont pas complètement cons, ils veulent pas qu'il y ait des maladies trop contagieuses qui viennent se promener, etc. Mais ils vont les limiter gravement et dire bah du coup l'accès économique, oui mais ça nous coûterait moins cher d'avoir l'AME. En fait on s'en balèque, c'est pas que un problème de santé publique, ça ils en ont rien à foutre la santé publique, sinon il y aurait encore un hôpital en France. Et l'argument économique, juste en fait il y a des gens qui sont malades, on les soigne et la fin de la discussion elle est là. Et que oui, c'est des... effectivement on peut pas le nier, d'un point de vue santé publique c'est complètement débile, d'un point de vue économique c'est complètement débile, mais par ailleurs ce qui sous-tend ça, c'est jamais des réflexions de santé publique ou d'économie, c'est définitivement des questions de racisme et dire que une fois encore, si en milieu rural, on n'arrive pas à avoir de médecin parce qu'en fait, il n'y a plus de médecin, au lieu de nous faire croire, au lieu de nous expliquer que c'est parce qu'on s'aborde tout l'hôpital public et tout le soin, tout le système de santé, on va plutôt nous expliquer que c'est à cause de 0,5% du budget qui est consacré à soigner des personnes qui, rappelons-le, n'ont pas vraiment d'autres moyens de le faire.
Et oui, un petit complément sur l'AME quand même, puisque notamment ça touche des médecins. Il y a des médecins, il y en a beaucoup au Sénat, et il y en a beaucoup à l'Assemblée d'ailleurs. Hein, c'est une population, une corporation assez représentée.
C'est peut-être pour ça qu'on n'en trouve plus d'ailleurs quand on en cherche.
Ouais, ils ont tous été élus, ils font autre chose. Et il y a quand même des médecins qui sont moins cramés que les autres ou moins éduqués que les autres, et il y en a notamment deux. Qui ont déposé des plaintes devant l'ordre des médecins. Donc l'ordre des médecins, c'est un peu la responsabilité de la corporation, et c'est aussi une justice interne quelque part, pour violation du code de la santé publique contre deux sénateurs, les Républicains, qui sont également médecins, et qui ont voté cette fameuse suppression de l'AME. Et donc notamment, ils expliquent que ça viole 5 articles du code de la santé publique, dont l'article R4127.7, qui stipule, je cite, que le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. On parle du médecin quand on dit « il » ici. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Donc là, évidemment, en supprimant l'AME, ça marche plus très bien. Hein. Quand tu votes l'AME et que tu es un médecin, a priori, tu es en train de te contredire par rapport à ça. Voter la suppression de l'AME est en contradiction avec le serment prêté par les médecins de protéger toutes les personnes sans aucune discrimination si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité, affirment encore ces deux médecins. On va les nommer, hein, le docteur Federman et le docteur Dubovetsky, qu'on remercie d'aller faire chier leurs collègues, les Républicains, qui ont voté cette saloperie.
C'est ça, parce que même avant la loi, c'est écrit dans le serment d'Hippocrate de
absolument,
soigner toute personne en besoin de soins.
Si elle a une couverture santé. Je crois qu'ils vont mettre un appendice dans pas longtemps.
Ils
vont
mettre des appendices. S'y attendez pas, genre de trucs.
Canu Info du vendredi. Rubrique santé, handicap.
Les patients, ils manquent de plein de choses, ils manquent de soins, je ne peux pas leur offrir le temps nécessaire à leur bien-être.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pour demander une vraie individualisation de l'allocation adulte handicapé.
C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure.
Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades.
It's basic truth of the human condition. Everybody lies.
Hello. I'm the doctor. Basically, run.
Bon, alors sur des sujets graves, c'est vrai que c'est important des fois de rappeler la loi ou alors de la changer, hein, comme font facilement nos politiques en ce moment. Mais du coup, il y a des endroits où dans la loi, les gens ont un certain nombre de droits. Et c'est ce qui est relevé là pour l'accès à une scolarité respectueuse, on va dire, pour tout un tas d'enfants présentant des handicaps reconnus par la MDPH. En tout cas, il y a sur le Puy-de-Dôme, pour parler en tout cas du Puy-de-Dôme, près de 200 enfants en situation de handicap privés depuis septembre de l'accompagnement nécessaire au bon déroulement de leur scolarité. En cause, les vagues d'arrêt maladie et de démission de personnel à ESH sous-payé et épuisé. Personnel AESH, AESH et accompagnant des élèves en situation de handicap. Là, pour prendre un petit exemple, à Clermont-Ferrand, la scolarisation d'un enfant handicapé est un combat de tous les instants. Alors, je pense que c'est pas que à Clermont-Ferrand, hein, mais en tout cas, là, l'exemple est pris à Clermont-Ferrand. Avec un exemple d'une mère qui accompagne son enfant à la rentrée. L'année dernière, il est en primaire, son enfant. C'est une mère célibataire avec deux enfants. et son petit garçon, après avoir eu la chance d'avoir une AESH sur l'ensemble du temps scolaire l'année dernière, et quand il y avait absence de l'AESH, il y avait le corps enseignant de l'école qui se mobilisait autour de ce petit garçon qui, pour qui des troubles du spectre autistique ont été diagnostiqués. Voilà, donc il se mobilisait autour d'eux. Donc l'année dernière, il a pu faire une année normale. Et cette année, sa mère, par exemple, a eu, à la rentrée, au moment de la réunion de rentrée du point sur la scolarité de son fils, l'information que les jours où l'AESH ne pourra pas être présente pour son fils, il devra rester à la maison. Donc la mère, elle a eu l'impression d'être dans un procès, mais on lui a expliqué qu'il n'y avait pas assez de personnel pour assurer son accompagnement, qu'il était agressif et agité et qu'il avait mordu quelqu'un. Et alors bon, en tant que mère, elle s'interroge sur les raisons du changement de comportement de son enfant, mais au niveau de l'école, c'est en tout cas un caractère extrêmement exclusif. Et puis deux semaines plus tard, cette même mère apprend que son fils ne pourra plus aller à l'école en raison d'un arrêt maladie, de l'AESH qui était en responsabilité d'accompagner son fils. Donc du coup, faute d'une semaine à l'école, il aura droit à 3 heures le jeudi matin. Sinon, le reste du temps, la mère doit gérer son enfant chez elle. Alors là, dans cette situation précise, parents isolés, du coup, cette dame ne peut plus travailler, comme elle doit être... avec son enfant tous les jours, sauf le jeudi matin pendant 3 heures. Et donc, elle, ce qu'elle exprimait, c'est que du coup, ils allaient rester encore plus avec leurs enfants, encore plus dans une situation de burn-out et encore plus précarisée, compte tenu de son incapacité à du coup pouvoir tenir un travail régulièrement. Donc, l'école inclusive semble être un mythe. Voilà, ils ont vendu une belle chimère, surtout sur des gros plans d'accompagnement des enfants relevant de troubles autistiques. En tout cas, ça date de la loi du 11 février 2005, qui était sur le principe de l'école inclusive, qui affirme que le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Qui s'exerce à travers une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. En vertu de ce principe, quelque 436 000 élèves en situation de handicap ont été accueillis en septembre dans les établissements scolaires par 132 000 accompagnants et 3,8 milliards d'euros ont été affectés à leur accueil. Mais malgré la création cette année de 6500 postes supplémentaires d'AESH et de mesures de revalorisation de leur salaire, ça date de juillet 2023, là, cet été, ils avaient une augmentation de 1,5% du point d'indice. En tout cas, le système continue de craquer de toutes parts, laissant des milliers d'élèves avec une prise en charge bien inférieure aux besoins reconnus par la Maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, ou sans prise en charge tout court. Alors c'était un problème qui était soulevé déjà l'année dernière par Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits des enfants en situation de handicap, qui parlait alors certes de cette volonté étatique d'augmenter les salaires et d'augmenter les attributions d'AESH, sauf que elle, Claire Hédon, n'a de cesse de recevoir des témoignages de parents qui expliquent que, faute de moyens financiers ou humains, les écoles et les collèges et les lycées, des fois, refusent d'entrer la scolarisation de ces enfants. Donc, ce qui amène déscolarisation. Et donc du coup, pour des situations de famille pour qui le handicap de l'enfant est quand même extrêmement lourd, ça n'en rajoute que davantage. Et puis pour parler un petit peu des AESH, qui sont quand même un métier qui peut quand même relever d'une extrême précarité, pour avoir un peu une notion, la majorité, c'est des femmes sur les emplois d'AESH. Et la majorité, c'est des contrats de 24 heures par semaine qui leur sont proposés, équivalent 800 euros net à peu près par mois. Mais ce qu'il y a en plus, c'est souvent leur une demande qui leur est faite d'une grande mobilité, parce que souvent on les fait intervenir sur différents établissements. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a un manque de formation de ces professionnels, autant de ces professionnels-là aussi un manque de formation et de sensibilisation de tout le corps enseignant et autres pour accompagner ces enfants avec des difficultés variées, mais en tout cas qui normalement auraient le droit d'avoir ce droit fondamental d'avoir une scolarité et un enseignement. Juste pour finir, il y avait quand même toujours, là, vraiment, on se fout de la gueule du monde à tous les étages. J'ai trouvé sur le guide national des accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est un truc d'une quarantaine de pages, du coup, qui explique les tenants, les aboutissants. Ils sont plus sur quel sera votre responsable hiérarchique que comment est-ce qu'on va vous apprendre à faire votre métier et à vous donner les possibilités de le faire. En tout cas, le début, c'est donc le but des AESH, c'est scolariser dans de bonnes conditions les élèves en situation de handicap, qui est une grande cause du quinquennat. La réalisation d'une école pleinement inclusive est à ce titre une priorité. Donc l'école inclusive vise à assurer une scolarité de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. En tant qu'AESH, vous êtes un acteur essentiel de la pleine réussite de l'école inclusive. Votre engagement au cœur de la communauté éducative, etc., etc. Et puis à la fin, Vincent Souhaite-Témon, directeur général des ressources humaines, leur souhaite un plein accomplissement professionnel et personnel. Bon, alors voilà, il y a déjà tout un tas d'élèves qui n'ont pas de prof, et alors si en plus t'as un handicap, là vraiment, il va falloir que tu rames.
Et on rappelle que par ailleurs, ça c'est pour l'inclusion dans l'école dite classique, parce que notamment la France continue d'entretenir la ségrégation en plaçant les personnes en situation de handicap ou les personnes handicapées tout court, on n'est pas obligé d'utiliser ce terme là, dans des établissements spécialisés dont l'ONU, tout simplement l'ONU, demande la fin depuis des années, mais la France s'en contrefout.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et ouais, alors d'habitude, c'est vrai, dans les infos, on choisit un peu des petits bouts d'actualité et puis on vous les raconte, on essaie de vous proposer un regard et un petit peu autre chose que vous pouvez entendre sans forcer à plein d'endroits, c'est-à-dire un petit regard d'extrême gauche et anti-autoritaire pour mieux comprendre parfois ce qui est proposé. Et puis il y a des fois, et en vrai c'est le cas maintenant, où j'ai juste envie de laisser la colère au-delà des analyses et des grandes réflexions, parce que on a atteint des niveaux d'indécence et des niveaux de violence qui sont vraiment extrêmement élevés. Et non, je ne parle pas de la violence contre les biens qui fait peur à tous les grands capitalistes, parce qu'en vrai, moi ça me fout la gerbe voir comment tous les putains de néolibéraux ils vont défiler contre l'antisémitisme à côté des fachos, de voir comment il y a des dizaines d'années de propos racistes de moins en moins déguisés, de plus en plus présents, qui sont tenus par des connards au pouvoir, qui ont pu façonner le monde au point que maintenant on peut se demander en direct à la télé si la vie d'un enfant palestinien vaut et peut-être la vie d'un enfant israélien ou pas. Ça fout la gerbe de voir comment l'Europe et la France, honteuses à juste titre de leurs actes en 39-45, se déculpabilisent en soutenant depuis sa création l'État d'Israël, quels que soient ses actes. Ça fout la gerbe parce que c'est pas possible que parce que la colonisation de... Euh, parce que la colonisation en Palestine ne spolie que les Arabes, et ça, c'est rendu possible parce qu'ils n'en ont bien ils n'en ont pas cure, tous les grands de ce monde. Ça fout la gerbe de voir comment cet abandon complet d'une population a ouvert le champ à une bande de fanatiques armés prêts à massacrer de façon indiscriminée tous les civils qu'ils ont pu atteindre. Et cela en sachant quelles conséquences cela aurait sur la population qu'ils prétendent défendre en les muselant, tout en les muselant, car ne pas être d'accord avec le Hamas, c'est aussi s'exposer à de graves représailles à Gaza. Ça fout la gerbe de voir l'État fasciste d'Israël bombarder chaque jour toujours plus une population qu'ils ont enfermée entre leurs murs. Malheureusement, cette réaction n'attend pas. C'est l'essence même du fasciste qui est à l'œuvre. Et ça fout la haine de voir tous les grands démocrates et les humanistes autoproclamés prendre le parti du colonisateur. Tous les grands discours portés mais jamais mis en œuvre lors de l'invasion de l'Ukraine disparaissent lorsqu'il s'agit de la bande de Gaza. Les limites du supportable, elles ont été largement piétinées. Et aujourd'hui, des parents doivent écrire sur les membres de leurs enfants leur nom dans l'espoir de pouvoir les identifier quand ils ont été déchiquetés par les bombes américaines. La haine, quand face à cette situation, l'État français ose apporter son soutien inconditionnel aux fascistes. Inconditionnel, c'est la carte blanche donnée à toutes les exactions, à tous les massacres, car pour cet Occident raciste, un arabe n'a de valeur que mort. Et ce sont ces mêmes-là qui s'octroient la légitimité à venir traiter la gauche d'antisémite. Eux qui, sous couvert de faire barrage au FN, lui offrent une légitimité institutionnelle, l'inventant dans leur saloperie d'arc républicain à laquelle on ne souhaite d'ailleurs pas appartenir, car apparemment, il n'y a plus d'arguments moraux pour qui ont place dans la politique pour virer le FN. Ce sont eux qui ont une telle intelligence qu'ils arrivent à différencier un mort d'un autre mort, qu'ils arrivent à nous expliquer ce que pense un enfant au moment de mourir. Cette désinhumation ne peut que les servir parce qu'elle permet de justifier l'injustifiable. Au moment de mourir, un enfant victime d'une guerre, il n'en a rien à foutre de savoir pourquoi, qu'il soit israélien, palestinien ou n'importe quelle autre nationalité. Certains et certaines pourraient refuser de se positionner clairement contre l'antisémitisme, car maintenant c'est l'extrême droite qui ose nous y assigner. C'est lui donner bien trop de pouvoir et ne changeons pas pour les fachos. Nous n'avons pas de compte à rendre à un parti créé par un antisémite notoire et porté par des anciens du GUD. Nous le disions avant et nous continuerons de le dire toujours. Nous luttons contre toutes les formes de racisme. Et en cela, nous continuons à savoir quelle est la différence entre des personnes juives et un État fasciste. Nous savons faire la différence entre une organisation islamiste et des personnes musulmanes. Et nous continuerons de la porter aussi longtemps que ce sera nécessaire. Alors voilà, c'est de plus en plus difficile de supporter l'actualité quotidienne, de voir tout ce qu'on nous inflige chaque jour avec le nombre d'atrocités et l'innommable, et finalement trouver des mots pour pouvoir décrire à la fois ce qui se passe et à la fois tous les commentaires et toutes les personnes qui se sentent légitimes à prendre la parole pour dire de la merde et venir légitimer des choses complètement impensables. Alors parfois, ça fait tomber dans le désespoir et on se demande ce qu'on va pouvoir faire face à cette fascisation plus que latente et aujourd'hui présente réellement. Moi, je crois qu'on a le droit des fois d'être dans le désespoir, mais qu'au bout d'un moment, on a aussi la capacité, et peut-être c'est ça qui est ça le Walter, de le transformer en colère, parce que finalement, si le désespoir, ça peut paralyser, la colère, ça pourra nous aider aussi à aller cramer des trucs.
Et puis, effectivement, on vient de le dire, dimanche est organisée une manifestation contre l'antisémitisme, manifestation qui est organisée à l'instigation du gouvernement et avec tous les partis de gouvernement français, sauf la France Insoumise. Alors, sauf la France Insoumise, hein, donc, qui d'ailleurs n'est pas toujours, voire jamais clean en matière d'antisémitisme, mais par contre avec le Rassemblement National et Reconquête, hein, les deux partis d'extrême droite principaux de ce pays. Oui, on a bien entendu. Le discours officiel, hein, qui instrumentalise totalement la lutte contre l'antisémitisme à des fins racistes, c'est que quiconque ne serait pas présent à cette marche serait de facto antisémite. Et donc on a le PS, le PCF et les Verts qui ont assuré dans un communiqué commun qu'ils incitaient leurs militants et militantes ainsi que leurs sympathisants et sympathisantes à y aller, mais qu'ils mettraient en place, attention je cite, un cordon républicain pour distinguer dans la manifestation un cortège rassemblant tous les républicains et progressistes d'une part et le RN et les forces d'extrême droite d'autre part. Alors déjà, on voudrait bien connaître la couleur du cordon, sera-t-il rouge, brun, vert, brun, on ne sait pas trop, et comment il va bien pouvoir se matérialiser, comment on va séparer les gens, enfin ça va être incroyable. Surtout, on voudrait aussi savoir comment des partis qui, on le rappelle, sont allés manifester en 2021, il y a 2 ans à peine, avec des syndicats policiers d'extrême droite, ainsi qu'avec Éric Zemmour, devant l'Assemblée nationale, comment est-ce que ces personnes vont bien pouvoir faire pour reconnaître un facho. Surtout que l'exercice s'annonce difficile. En effet, dans un contexte indéniable de hausse des discours antisémites, hein, qui sont parfois maquillés sous une critique d'Israël ou du sionisme, le minimum serait d'être clair avec ce que l'antisémitisme veut dire. Et on va quand même voir un petit peu, dans le même temps, pouvoir noter qui sera dans cette manifestation pour vous donner des leçons en matière de lutte contre l'antisémitisme. Alors on va commencer dans cette manif, il y aura par exemple Gérald Darmanin. Gérald Darmanin n'est pas seulement ministre de l'Intérieur, hein, il a notamment écrit en 2021, alors qu'il était ministre de l'Intérieur en poste, que la présence des Juifs en France posait problème sous Napoléon en raison, je cite, de l'usure qui faisait naître troubles et réclamations. Gérald Darmanin, ce même Gérald Darmanin, a collaboré un temps au mensuel d'extrême droite Politique Magazine, qui est en fait l'organe de presse du parti royaliste Action Française, et donc un parti qui s'inspire notamment d'un type qui s'appelle Charles Maurras, un intellectuel qui se réclamait d'un antisémitisme d'État. Le même Charles Maurras, d'ailleurs, à qui Macron a rendu hommage en 2020 en le citant devant les députés En Marche comme inspiration de sa politique régalienne. On est bien, tout ça, pour donner des leçons en termes de matière d'antisémitisme, on est pas mal. Macron a créé d'ailleurs en 2018 France Mémoire, donc un service de l'État qui a succédé à l'ancienne délégation aux commémorations nationales. Donc ce service avait notamment ajouté Maurras aux commémorations nationales en 2018, et puis il a aussi ajouté un autre type qui s'appelle Barrès pour 2023. Alors Maurice Barrès est surtout connu pour ses écrits réactionnaires, nationalistes et antisémites, on vous le donne en mille. On pourrait aussi ajouter qu'en 2020, Macron avait aussi souhaité rendre un hommage appuyé au maréchal Pétain. Hein, donc Pétain, on le rappelle, hein, le grand ordonnanceur de la France de Vichy qui a envoyé des milliers de juifs à la mort. Voilà toujours pour les actions de Macron. Et d'ailleurs, à propos de Pétain, dans la même manif, on aura aussi Éric Zemmour. Éric Zemmour qui, lui, est un fan absolu de Pétain, dont il a même prétendu, contre toutes les évidences historiques, qu'il avait protégé les Juifs de France. Dans cette même manif, outre Zemmour, on aura aussi un autre ou une autre leader de l'extrême droite, puisqu'on trouvera Marine Le Pen qui, en 2012, il y a une dizaine d'années, était allée danser la valse avec les pan-germanismes nazis viennois, donc c'est-à-dire littéralement un regroupement de négationnistes de la Shoah. Cette même Marine Le Pen dirige un parti politique qui a donc été créé par un ancien Waffen-SS et par son père, hein, donc son père qui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine sur des fondements antisémites. Enfin, ce parti, quand même, le FN, hein, devenu le RN, qui nous dit aujourd'hui que tout ça appartient au passé, alors qu'ils ne sont pas du tout capables de qualifier leur chef d'antisémite précédemment, mais bref, alors que l'antisémitisme, ce n'est pas du tout leur passé, en fait, hein, c'est toujours leur actualité, puisqu'en fait, c'est son ADN au RN. On retrouve d'ailleurs dans la plupart des sorties anti-système de ce parti, où si on fouille un petit peu derrière le vernis, bah, c'est pas très propre. Par exemple, Marine Le Pen, en 2020, expliquait dans ce magazine d'extrême droite qui est Valeurs Actuelles, que Macron ne pouvait plus garder le silence sur la supposée influence de George Soros en France, ce qui est pile poil en fait un des principaux tropes, ou en tout cas de l'imaginaire antisémite contemporain. Et ça, c'est pour quelques noms connus, hein, le président de la République quand même, le ministre de l'Intérieur et les chefs des deux plus gros partis d'extrême droite français. Mais il y en aura d'autres paquets de gens en fait qui pourraient leur ressembler dans les manifs de dimanche, donc on voit pas trop à quoi ça mène, à part finalement à faire céder les dernières digues qui nous protègent encore un tout petit peu d'une fascisation totale de ce pays. Alors tout ça donne quand même envie de citer quelques propos de Jean-Pierre Vernant. Donc avant d'être un historien du monde grec, c'est quelqu'un qui avait été résistant et maquisard sous l'occupation. Il savait à peu près à quoi s'en tenir, lui, avec les fascistes. Et il disait, je cite, « Une poignée de main me paraîtrait encore de trop avec ceux qui, aujourd'hui, loin du bruit et de la fureur des événements, manifestent leur sympathie envers le nazisme, essaient de lui trouver des excuses et de se laver de ses crimes. » Il poursuivait en disant « Je crois pourtant être hospitalier. » Les Grecs anciens disaient que quand on frappe à votre porte, c'est peut-être un dieu qui vient voir si vous êtes toujours disponible. C'est pourquoi ma porte et ma table sont toujours ouvertes. Je suis prêt à expérimenter tous les plats qu'on voudra, même les plus étrangers à mon goût et à mon régime. Mais on ne discute pas de recettes de cuisine avec des anthropophages. Je ne souhaite ni partager leur repas, ni les inviter à ma table. Alors on ne discute pas de cuisine avec les anthropophages, c'est pourquoi moi je ne manifesterai pas avec celles et ceux qui célébraient les idées ou des hommes antisémites hier et qui le referont sans doute demain.
Et c'est pas facile de prendre la suite,
ouais,
mais je vois que l'heure passe, alors du coup on va quand même très très brièvement vous raconter cette histoire de l'annulation de la dissolution des soulèvements de la terre par le Conseil d'État, le titre est déjà long. Déjà on peut commencer par dire youpi, parce qu'en vrai c'est une bonne nouvelle et c'est super chouette, mais on peut, une fois qu'on s'est dit ça, quand même se poser la question, tiens, parce qu'en vrai une décision de justice c'est jamais que youpi ou pas youpi, il faut un peu lire entre les lignes, et malheureusement il semblerait, je ne suis pas juriste, mais il y a des gens qui ont l'air de bien s'y connaître qui proposent cette idée qu'à la fois c'est une bonne nouvelle et en même temps, finalement, c'est presque macroniste, c'est aussi un peu inquiétant parce que finalement ce que le Conseil d'État ne dit pas, c'est les soulèvements de la terre ne peuvent pas être tenus responsables de alors bon, toujours pareil, la question des violences contre les biens, on peut se poser de qu'est-ce que c'est une violence contre un bien, en tout cas ne sont pas responsables des violences Il dit que, en fait, les violences sont pas suffisamment assez graves pour pouvoir valider la dissolution. Et en fait, ça, c'est une petite pirouette juridique, mais qui vient ouvrir la porte, en fait, à quand même pouvoir leur attribuer les violences qui ont été commises lors de manifestations dont ils ont pu être ou pas les organisateurs, ou pouvoir les légitimer. Et par exemple, c'est le cas du CRI, j'ai mangé l'acronyme parce que j'ai un trou de mémoire, peu importe.
Une association antiraciste.
Oui. Une association antiraciste et anti-islamophobie qui, du coup, légitimait ça. Alors, pour le coup, ça a validé la dissolution parce qu'on notera que sur les quatre groupements qui étaient, dont la dissolution a été étudiée hier, finalement, il n'y a que les soulèvements de la terre qui sont passés à travers. Du coup, à la fois youpi et à la fois soyons prudents et prudentes parce que la formulation même du rendu n'est pas aussi simple que ça et certainement ça ouvre la porte à une possible dissolution plus tard. Je voulais conclure par un truc mais on n'a plus le temps et je l'ai oublié, alors c'est pas grave.
Alors juste un petit mot parce que quand même on nage en plein délire et pleine absurdité. Au milieu de tout ça, il y a Moscovici qui m'a bien fait rigoler en fait. La Cour des comptes, qui est du coup la juridiction censée contrôler la bonne utilisation des deniers publics, qui est sous la responsabilité de Moscovici justement en ce moment. Mais du coup, dans son dernier rapport à cette Cour des comptes, il y a deux photos du président qui n'étaient pas parfaites. Donc les 3000 exemplaires ont été envoyés au pilon et le tout a été réimprimé aux frais des contribuables. Donc je vous passe l'idée que cet été, tout un tas de rapports de la Cour des comptes ont été distribués par pile, partout, dans tout un tas de bureaux. Et puis, bizarrement, ils sont tous été récupérés à peu près dans la même matinée, je crois. En prétextant du coup une erreur. Et puis mi-juillet, il y a une nouvelle version qui était sortie du coup et redistribuée sur tout un tas de bureaux avec du coup l'étonnement un petit peu parce que rien n'avait changé entre les deux rapports, seules deux photos de Pierre Moscovici. Donc la première, en pleine page d'ouverture, montrait initialement Pierre Moscovici sur les toits de Paris, la tour Eiffel en fond, souriant mais le regard fatigué et les traits tirés. Et dans la nouvelle version, il est à l'intérieur du palais Chambon, souriant toujours mais plus fringant. Donc voilà, on est content que Pierre ait pu être un petit peu plus présentable et affable et frais sur le compte-rendu de la Cour des comptes. En tout cas, cette petite touche esthétique a coûté bon, à peu près 10 000 euros apparemment pour les impressions. On ne va pas parler de tous les exemplaires du coup qui proviennent de papier, qui proviennent d'arbres et qui ont été détruits. Hein. On va juste parler du coût qui est certes ridicule par rapport aux sommes que ces gens-là manient quotidiennement, mais quand même un petit peu rageant. Parce que 10 000 balles, bon, c'est la moitié d'un salaire annuel, à mon avis.
Pour plein de gens, 10 000 voilà, balles, c'est beaucoup.
C'est énorme. Et puis voilà, pour continuer quand même un petit peu le foutage de gueule jusqu'au bout, sur ce fameux rapport, sur la quatrième de couverture, du coup, rien n'avait changé. Le slogan de l'institution était toujours là. J'ouvre les guillemets. S'assurer du bon emploi de l'argent public, en informer les citoyens. Fermez les guillemets.
Et on va passer à la suite, sans transition.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Vendredi 10 novembre
à partir de 23h
pour un tunnel de teuf.
Pour les infos, rappel vendredi soir à 20h sur ce numéro.
Tunnel de teuf.
Viens t'éclater sur le meilleur dance floor de ta région.
Pour votre santé, évitez les comportements racistes, sexistes, homophobes, transphobes, validistes.
Ceci est un message du ministère de la Défense.
Voilà, si vous voulez faire la teuf ce soir.
Bah, apparemment, il y a une teuf dans Lyon, sous un pont, et il y a une infoline. On nous a envoyé cette information au 07 53 44 42 75. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce que ça va devenir.
Voilà, et on va vous faire l'agenda, on va faire juste l'essentiel, enfin l'essentiel en tout cas, les rendez-vous où c'est toutes les semaines, vous les retrouverez facilement sur rebellion.info. Sinon, on va quand même mentionner une manifestation Stop à l'extrême droite, ses idées, à l'extrême droite, ses idées et ses violences. C'est demain à 15h jusqu'à 17h30 à la place Bellecour. Vous pourrez quand même profiter, hop, je passe les trucs les moins, hop, voilà, il y a un atelier d'écriture aux prisonniers-prisonnières, ça c'est mercredi 15, c'est 18 à 20 et ça se passera à l'illégalité à Cusset. Et enfin, un peu d'autopromo, il y a une rencontre autour de l'ouvrage Tenir la ville, lutte et résistance contre le capitalisme urbain. Ça, c'est à la Griffe et c'est vendredi en 7, du coup, de 19h à 21h, discussion autour des luttes et des expériences de résistance qui s'opposent au projet capitaliste d'appropriation des territoires urbanisés, pardon, avec les auteurs du livre collectif Tenir la ville, dont ce sera le lancement, donc vendredi 17 à 19h à la Griffe.
Radio Canu !
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes !
Canu Info du vendredi.
Bonjour Pierre, malheureusement les appels sont pas passés ce soir, donc on n'a pas d'ACAB, on sait toujours pas ce que ça veut dire. On m'a suggéré All Cats Are Beautiful et All Colors Are Beautiful, qui dans ce monde raciste finalement finit par sonner subversif, alors qu'à la base c'était un slogan de Benetton. Le monde s'écroule, nous on essaie de pas trop s'écrouler tout à l'heure, enfin tout de suite ou dans très peu de temps. Finalement, une traditionnelle émission de rap musette revient. C'est Noise Pollution. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 19h, même heure, même endroit, même 102.2 FM.
Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Ciao.